The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
But the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha, 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 funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, cette émission qui vous parle série télévisée. 17e épisode de la saison 5, déjà avec Aurore qui m'a rejoint en studio. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Alors, émission un peu spéciale aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà le dire ?
Allez, d'accord, on va déjà révéler le sujet du jour, puisque figure-toi que cette semaine, samedi passé exactement, a eu lieu un événement exceptionnel, c'était les 20 ans de Dawson's Creek.
Génial.
Génial, t'es content quand même.
Et donc on va consacrer les sujets du jour à ce propos.
Ben voilà, on va fêter les 20 ans avec Dawson.
Bon, donc, pour ceux qui adorent Dawson, ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle, appelez vos amis. Puis pour les autres, restez encore 2-3 minutes, l'histoire.
Oui,
de...
au début, on va parler d'autre chose.
De revoir deux séries que tu as visionnées dernièrement, une nouvelle peut-être et une plus ancienne.
Une nouveauté et une plus ancienne, oui.
Ça, vous pouvez faire. Et puis, tout comme moi, après, on s'éclipsera. Enfin, je devrais rester, mais...
Oh,
non,
vraiment,
je suis
vraiment,
mauvaise langue. Je suis sûr que je vais m'amuser et que je vais pouvoir participer et un peu casser peut-être l'ambiance.
Non, ça, c'est pas acceptable.
Les 20 ans de Dawson, c'est dans quelques minutes. La revue avec toi de deux séries télévisées. La première.
La première, on va commencer par la nouveauté, comme à notre déjà habitude. Il s'agit d'une nouveauté que j'ai découverte sur Netflix. Encore une fois, je suis désolée, mais c'est un petit peu l'omniprésence pour le moment de ce média-là. Il s'agit de Manhunt, Una Bomber.
Oh, je suis un peu embêté parce que, si je ne m'abuse, on n'a pas encore tout vu.
On n'a pas encore tout vu, on a vu 6 épisodes sur 8, oui.
Et je garde justement, moi, mon avis, enfin, je suis déjà très, très conquis par la série, on peut le dire. Mais bon, voilà, j'attends quand même la fin pour voir un peu comment ils vont nous tourner tout ça et surtout comment ces faits réels se sont passés.
Oui, donc on va d'abord expliquer un petit peu de quoi ça parle. Il s'agit donc de la chasse du FBI contre un terroriste réel. C'est une histoire vraie, même si elle a été un peu romancée
oui,
pour l'occasion.
Oui, clairement, mais très bien romancée.
Oui, exactement. Dans laquelle on va suivre principalement un agent du FBI qui va développer des techniques un petit peu plus élaborées en profilage pour repérer le profil du terroriste nommé Una Bomber, donc, qui envoyait des bombes dans des bureaux ou bien au domicile de personnes plutôt en vue dans la communauté scientifique ou bien des technologies, etc., hein, si j'ai bien tout compris, dans les années 90. Voilà, et cette homme, cet agent du FBI, aurait commencé à mettre sur pied notamment la linguistique légale, c'est comme ça qu'il l'appelle dans la série, c'est-à-dire à travers l'analyse du langage utilisé par le terroriste dans ses lettres et puis aussi dans son manifeste, puisque l'homme a écrit un manifeste dans lequel il résume un peu l'ensemble de sa pensée, en repérant les tics de langage ou bien les quelques erreurs, les spécificités régionales ou ce genre de choses-là, il va être capable de vraiment être assez précis dans sa recherche qui jusque-là avait mené le FBI plutôt dans une direction totalement opposée, puisqu'il cherchait plutôt quelqu'un qui n'avait pas de diplôme, qui travaillait dans le domaine mécanique, ce genre de choses-là. Et puis lui, il arrive et il dit non, en fait, on a tout faux jusqu'ici, c'est tout à fait autre chose et il faut tout recommencer à zéro. Bon, attitude qui va lui valoir quand même énormément de réticence de la part de ses supérieurs. Hein. Ça fait énormément, on ne peut pas ne pas penser à la série Mindhunter, puisqu'on l'a vu il y a quoi, 2 mois maintenant, également sur Netflix. Mais je t'avouerai que moi, je préfère cette série-ci.
Oui, ben tout à fait. Hein, ce combat un peu en interne du FBI est très intéressant. Hein, faire passer des idées, on est stressé pour le gars qui doit tenter l'aventure et puis qui se plante parfois dans sa théorie finalement et qui est jugé par ses pairs et assez maltraité par
moments.
Oui, moment.
C'est ça. Il y a un vrai manque de reconnaissance dans lequel finalement il va pouvoir se retrouver avec le terroriste lui-même qui vit plus ou moins ce manque de reconnaissance de son intelligence à son niveau aussi. Et donc beaucoup plus que dans Mindhunter, j'ai l'impression qu'il y a une vraie compréhension de la psychologie du criminel. Alors ici, on est moins dans les trucs un peu tape à l'œil et dégoûtants du serial killer de base. On a quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Mais à part éventuellement, oui, d'un point de vue purement stylistique, on peut imaginer que la mise en scène est moins recherchée dans cette série-ci, mais à part ça, au niveau de la profondeur psychologique, au niveau de l'attachement qu'on peut avoir vis-à-vis des personnages, et puis aussi au niveau du côté haletant de la poursuite...
C'est très bien vu.
Voilà, c'est vraiment très prenant et on se laisse entièrement prendre au jeu et on a envie d'en savoir plus, quoi. On est presque déçu de se dire « Ah, mais flûte, c'est déjà bientôt fini. »
Oui, je suis d'accord.
Tu es d'accord pour une fois,
bah, dis-donc. Pour une fois, bah oui, mais j'ai adoré vraiment ce stress, cette mise en abîme également de la destruction, finalement, sans en donner des détails de la vie privée de l'enquêteur en question, et qui apparemment ne s'en est pas bien remis même après, hein, puisqu'on a des flashbacks comme ça dans le temps par rapport à la poursuite, et puis on voit la situation à des points dans la situation quasiment actuelle, ou plus tard en tout cas, après l'arrestation.
Oui, il y a un va-et-vient entre la situation au moment de la poursuite du criminel et puis 2 ans plus tard, ils refont appel à l'agent qu'il avait débusqué pour essayer de le convaincre de plaider coupable pour éviter un procès qui risque d'être un petit peu dérangeant pour le FBI. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une série Discovery. Ici, je crois que c'est la première série Discovery que je regarde et c'est vraiment une réussite. Donc, à ne pas hésiter à aller découvrir.
Merci Aurore pour cette série Netflix. La suivante.
La suivante, alors, on va parler cette fois-ci d'une série qui est plus vieille déjà, mais qui nous a sorti une nouvelle saison il n'y a pas longtemps. Pour une fois, je ne vais pas parler d'une saison 2, je vais parler d'une saison 4, me semble-t-il. Il s'agit de la série Black Mirror. La série Black Mirror, encore une fois, sur Netflix.
Ah d'accord, bah oui.
Oui.
Et qui reste dans sa lignée, selon toi ?
Alors, j'ai entendu des avis contradictoires sur le sujet. Il y en a qui disent que c'est un petit peu changé, que c'est peut-être un peu plus léger, etc. De fait, il y a certains épisodes où j'ai eu l'impression d'être moins devant Black Mirror que devant une autre série qui se présentait à peu près avec les mêmes thèmes et sous le format également anthologique qui s'appelait Dimension 404. Qui était proposé par Hulu, me semble-t-il, dans la première partie de 2017. L'épisode... Hank the DJ, je crois, qu'il s'appelle cet épisode-là, ressemblait assez au premier épisode de Dimension 404. C'est pour ça probablement que j'y ai pensé. Malgré tout, tous les épisodes ne sont pas aussi légers et certains continuent à mettre assez mal à l'aise. Et par exemple, il y a un épisode sur une sorte de puce intégrée au cerveau d'un enfant pour pouvoir surveiller en permanence ce qu'il voit, etc., qui ressemble très fort à des épisodes qui avaient pu être proposés par les saisons précédentes. Il y a évidemment l'épisode tout en noir et blanc où on ne comprendra jamais exactement quels étaient les enjeux, les tenants et les aboutissants, vu qu'il y a très peu de mise en contexte et de dialogue dans cet épisode-là, mais qui malgré tout est assez frappant aussi, hein, puisque c'est une sorte de chasse à l'homme par des chiens robots, on pourrait les présenter comme ça. L'épisode que j'ai trouvé le plus réussi probablement, c'est le premier de la saison, qui nous présente une parodie, pourrait-on dire, de Star Trek, mais à travers un procédé assez intelligent, c'est-à-dire que ça a un vrai sens que les personnages se retrouvent dans cette situation-là, et c'est vraiment vraiment bien foutu, ça pose vraiment des questions, et donc j'ai trouvé cet épisode-là très très réussi. Donc en gros, moi je suis plutôt contente de la série. Je suis pas du tout pour l'idée qu'il faille absolument que chaque épisode soit hyper plombant, si de temps en temps on nous propose des épisodes un petit peu plus feel-good, même s'il y a toujours un petit arrière-goût métallique, on va dire.
Ouais, et peut-être c'était mieux avant.
Non, pas forcément bah, ça.
Ils mettent souvent en avant les technologies telles qu'on peut les imaginer avec leurs dérives.
Oui, exactement.
D'où
oui.
Ma phrase, c'était mieux avant quand il n'y avait pas de technologie, mais parce que quelque part, ils ont une vision assez négative de l'évolution à ce niveau-là.
Oui, très clairement. Mais en même temps, enfin, je crois que le fait qu'il y ait la possibilité de se poser des questions, c'est quand même grave que ce soit par la fiction qu'on soit obligé de le faire et qu'il n'y ait pas du côté politique plus de réflexion à ce niveau-là. Mais bon,
bien bref. Sûr.
Voilà. Donc voilà, Black Mirror saison 4, une saison tout à fait agréable à regarder. Bon, agréable dans le sens Black Mirror, évidemment. Et puis, on verra ce qu'ils nous font par la suite, quoi.
Oui, exactement.
On va passer à Dawson.
Ouais, il va falloir passer à Dawson.
Je vois bien que tu freines des quatre.
Mais oui, mais non, c'était bien là. On pouvait consommer des minutes à ne rien dire. Bon, musique. C'est la pause qu'on va marquer là tout de suite.
On va s'écouter Golden Brown des Stranglers, entendu justement dans Black Mirror.
Texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
La suite de Série Folie avec, bien comme le générique ne l'indique pas du tout, le sujet emblématique du jour, tant attendu, les 20 ans de Dawson.
Ça y est, il est grand, le petit Dawson.
Il est grand, hein, encore heureux, même si on se souvient de lui avec des têtes pas possibles sur ses photos de pleurnichards.
Oh, dis franchement.
Bon, je suis mauvais,
Oui, tu es mauvais.
Parce que voilà, c'est finalement quand même une bien belle série que j'ai eu l'occasion, ou en tout cas, qui grâce ou à cause de toi, de voir plein de fois.
Ouais.
Je ne les compte plus.
Ouais.
Et donc, j'ai quand même passé de bons moments. Hein.
Oui, quand même.
Oui. Mais je n'en garde pas nécessairement hein, ce petit moment d'émotion intime au fond de moi, comme tu peux le faire très souvent.
Bah écoute, puisque je vais commencer par essayer de parler des points forts et des points faibles de la série, est-ce que toi, t'aurais déjà une idée d'un point fort ou d'un point faible qui te sauterait aux yeux immédiatement ?
Est-ce que c'est un point fort ou un point faible? Je n'en sais rien. Mais le fait que, finalement, ça dépeint la vie d'adolescent, un peu trop sage à mon goût.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est quand même super, super léché, on ne va pas trop dans les sujets scabreux, il n'y a pas de sexe, par exemple, quoique, voilà, c'est quand même très propre.
Oui, c'est vrai. Ce sont des adolescents relativement sages. Hein. Tu as raison par rapport à d'autres séries dans lesquelles on a la vie peut-être un peu plus débridée et notamment au point de vue sexuel beaucoup plus déjà expérimenté d'adolescents. On peut penser notamment à Gossip Girl en tête, mais c'est pas le seul exemple. En effet, ici, ça fait un petit peu enfant bien sage. Mais en même temps, les enfants bien sages, ça existe.
Oui, tout à fait. Et puis, on parle aussi peut-être d'une autre époque. Hein.
Oui.
Même si, je pense que jeunesse s'est toujours faite à n'importe quelle époque de la vie. Et donc, ouais, non, un peu trop, voilà. On a eu peur de temps en temps, peut-être, d'engager des voix un peu plus... accord
tu
avec...
Tu crois que c'était un effet de censure ou d'autocensure?
Pas de censure, je pense que ça peut exister, mais là, ils le sont tous. Mm-hmm. Hein,
oui, moi, j'ai vraiment plus l'impression que ça reflète simplement la vie du créateur de la série, l'adolescence du créateur de la série qui s'est inspiré donc de sa propre vie, Kevin Williamson. Je crois que des adolescents qui finalement ne font pas une crise où ils claquent les portes au nez de leurs parents ou ils font les 400 coups, etc., ça existe peut-être plus qu'on ne pourrait l'imaginer.
Oui,
et
oui.
Notamment qu'il est représenté, hein, parce qu'on a souvent tendance à nous représenter justement des adolescents soit vraiment très très en rébellion, soit dans un âge vraiment bête où ils font n'importe quoi et là c'est... moi en tout cas je m'y retrouve assez, tu vois, que ce soit dans leur côté plus raisonneur que déconneur, c'est vrai que ça me ressemble finalement pas mal, quoi.
Ça va être ça c'est clair que le deuxième aspect, c'est que ce sont des ados qui réfléchissent beaucoup à la vie, au sens de la vie, de leurs décisions, de leurs choix. Et pour toi, clairement, ça, c'est à mettre du côté du positif.
Ah, pour toi, ce sera plutôt négatif.
Non, parce que c'est vrai que les sujets abordés sont multiples et complexes et font réfléchir. Mais bon, voilà.
Malgré tout, parfois, t'as l'impression que c'est un peu casse-tête.
Gnangnang.
D'accord. Alors, si tu veux bien, je reviendrai justement sur ces reproches-là pour essayer peut-être d'y répondre ou de les casser. Quoi qu'il en soit, donc, je vais te donner ce à quoi moi j'ai pu penser dans les points forts et les points faibles. Alors, ça ne t'étonnera peut-être pas, mais j'ai beaucoup plus de points forts que de points faibles. Donc, je vais commencer par là. Premier point fort auquel j'ai pu penser, c'est la narration, la manière dont l'histoire est construite et racontée, qui est relativement recherchée, je trouve. Il y a vraiment une volonté d'inventer à peut-être pas à chaque épisode vraiment de la série entièrement, mais au minimum dans la première saison qui était vraiment créée par Kevin Williamson, ça se sent beaucoup plus. Et puis même par la suite, ils ont quand même régulièrement essayé des choses, essayé de mettre en parallèle avec des films existants. Et tout ça développe une culture méta qui, il y a 20 ans, était quand même beaucoup moins installé que maintenant, quoi. On en est vraiment presque au balbutiement de ça, et Kevin Williamson d'ailleurs s'est particulièrement fait connaître grâce à ça. Donc il y a une recherche à ce niveau-là. en utilisant beaucoup les références cinématographiques, mais il y a aussi, je trouve, une inscription dans un temps long qui est relativement rare, en tout cas on ne retrouve pas ça souvent, et qui est aussi très intéressante. Alors pour beaucoup, c'est plutôt à mettre du côté négatif de la série, c'est-à-dire que la série prend super longtemps, ils mettent des plombes à prendre des décisions, etc. Pour moi, c'est positif pour deux choses. La première chose, c'est parce que j'ai la théorie en tête selon laquelle ben justement c'est un petit peu ça le but de la série, c'est de nous montrer que l'adolescence c'est ce moment d'hésitation justement avant d'entrer dans l'âge adulte et que l'entièreté de la série ne fait que représenter ça, ce moment d'angoisse comme ça qu'on peut avoir avant de sauter dans le vide quelque part et du coup ben oui, ça prend des plombes, mais ça prend des plombes parce que c'est ce que c'est censé représenter, quoi. C'est l'adolescence dans ce qu'elle peut avoir d'effrayant comme moment de latence avant de commencer à véritablement entrer dans sa vie active. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que non seulement ça rend peut-être les choses un peu plus réaliste entre guillemets, puisque dans la vie réelle aussi les choses ne se font pas forcément super vite, les sentiments se développent petit à petit, les sentiments ne s'avouent pas toujours à la seconde où on a commencé à les ressentir, etc. Mais aussi ça nous permet à nous en tant que spectateurs de véritablement rentrer dans un investissement grâce au temps qui est mis pour installer les intrigues, qui fait que c'est une série qui, au niveau émotionnel, est très très forte. Et ça, c'est plutôt à mettre à leur crédit, et je crois que c'est dû énormément justement à cette inscription de l'histoire dans un temps long. Chaque saison est déjà, dès son commencement, pensée pour aboutir à une fin, quoi. On sait à chaque fois, quand on voit la fin de la saison, on sait qu'ils savaient déjà où ils allaient au début. Et donc, c'est passionnant après de se refaire la saison pour voir justement à quel point tout avait été pensé, des petits indices, des petits éléments avaient été mis en place petit à petit. Comme ça, on a l'impression de suivre un peu le petit pousset qui en avait mis un peu partout sans qu'on les repère forcément au premier coup d'œil. Et ça, c'est plutôt aussi un jeu... Un jeu agréable qui nous pousse en tant que spectateur à avoir envie de jouer avec les créateurs de la série, les scénaristes, quoi.
Oui, d'accord. Alors, ma question à ce niveau-là, tu penses vraiment que tout a été si bien prévu ou c'est un peu une part de hasard qui a fait que la sauce a bien pris et que tout ça a resté cohérent jusqu'à la fin, même si il y a sur les DVD une fin alternative qui permet justement de...
Oui, alors c'est pas sur les DVD une fin alternative. La fin alternative est intégrée à la série elle-même. Mais là, ce sera à mettre plutôt dans les points négatifs. Mais de fait, il y a certaines lourdeurs, certaines longueurs, certaines intrigues dont on voit qu'elles n'étaient pas maîtrisées, dont on voit qu'elle tombe totalement à plat. Et donc non, tout n'était évidemment pas hyper d'accord. Bien prévu à l'avance. On est tout à fait d'accord, ça reste une série, ça reste quelque chose qui se construit au fur et à mesure avec tous les aléas du temps et de l'urgence aussi qu'il peut y avoir à certains moments à créer une série année après année, quoi. Donc il y a pas mal de choses dans le scénario qui parfois peuvent nous laisser un peu sur notre faim, voire totalement mécontents. Ça n'empêche pas que même ça, j'ai l'impression qu'il y a moyen de l'intégrer au message qu'essaie de transmettre la série. Parce que justement, la série, c'est aussi une manière de s'interroger énormément sur le sens de la fiction, sur la place du fantasme dans notre vie, etc. Et ces moments-là, souvent, prennent la forme de fantasmes, des moments très, très fictionnels, un peu clichés. Et donc, mais ça finit par réintégrer le propos de la série. Et même, d'ailleurs, les auteurs sont suffisamment intelligents pour être méta vis-à-vis d'eux-mêmes, puisqu'il y a certains moments dans les dernières saisons où eux-mêmes se moquent de ce qui a pu se passer de moins réussi dans les débuts de la série, notamment le personnage de Eve qui apparaît au début de la saison 2 et qui est un personnage un petit peu... Enfin, qui n'a aucune substance, qui est là uniquement pour représenter le fantasme de Dawson, mais qui n'a aucune existence, quoi. C'est vraiment... Et d'ailleurs, il joue un petit peu aussi sur les codes, notamment du polar et du film de détective autour de ça. Tu sens qu'il, à la fois, ça fait partie des faiblesses de la série, et à la fois, ça fait partie des choses sur lesquelles ils ont tâtonné, ils ont essayé des trucs, et donc, ça fait partie des défauts qui font les qualités de la série, quoi. Donc, peux pas entièrement leur en vouloir quand même. Bon, je continue quand même.
Oui, oui, continue.
T'imagines bien que c'était pas le seul point fort auquel j'avais pensé. Alors, j'ai également les dialogues qui me semblent être un point fort pour la série. Alors, on a beaucoup dit... c'est même devenu une sorte de cliché qu'on entend dans la bouche de tout le monde, de dire « Ah oui, mais dans Dawson, ils parlent comme des adultes, c'est pas crédible, des adolescents qui parlent comme ça. » Je suis pas d'accord, déjà, ça c'est une chose.
Oui, question par rapport au dialogue. La série, originellement, tu l'avais vue en français, je pense.
La première fois, oui.
Et après, tu as basculé en anglais ?
Je l'ai vu plusieurs fois dans les deux langues. Donc,
et ça reste cohérent ? Ça reste plus ou moins ça ?
Alors, de temps en temps, tu vois que le dialogue en anglais va quand même beaucoup plus loin que le dialogue en français. Hein.
On est d'accord.
Donc, il y a eu de la censure, mais cette fois-ci, pas de la part des auteurs de la série, contrairement à ce que certains pourraient penser. Les Américains sont moins puritains pour certaines choses que les Français. Voilà.
Mm-hmm.
Même si pour certains, les dialogues rendent la série indigeste et peu crédible, moi, je trouve qu'elle lui donne... Son mordant, sa pertinence, vu que justement ce sont des dialogues qui vont intégrer toute la réflexion qui est menée par la série sur quelle est la place de la fiction dans nos vies, est-ce qu'il faut être davantage dans le fantasme ou davantage dans l'action, etc., qui sont des questions qui vont se poser pendant 6 saisons et qui donc sont entièrement intégrées par les personnages. Et donc, quelque part, cette réflexion se mène sur plusieurs niveaux. Elle se mène autant dans la narration que dans la mise en image de la série et que dans les dialogues, etc. Et le tout se répond. Et donc, c'est finalement assez intelligent à ce niveau-là. Et il y a moyen de, à chaque fois, trouver des nouvelles pistes de lecture. Donc voilà, faudrait pas rejeter peut-être un petit peu trop facilement la série en se disant que c'est pas réaliste à cause de ces dialogues. J'ai bien aimé... petite parenthèse ici, si j'ai pensé à faire cette émission, c'est principalement parce que j'ai participé à une vidéo sur Small Things à propos de la série. Et j'ai bien aimé, je crois que c'est Yaelka qui participait aussi à cette vidéo, qui dit finalement, ce ne sont pas des adolescents qui parlent comme des adultes, ce sont des adolescents qui parlent mais comme des adolescents qui essaient d'avoir un propos adulte, quoi. Et ça me paraît assez, assez juste, cette manière de voir les choses. De fait, quand on est adolescent, on peut aussi soit se projeter un petit peu et essayer de tenir un propos très intelligent, même si émotionnellement, on n'en a pas encore entièrement la maturité. Et ça correspond assez bien à la série, quoi. Alors, je continue avec les autres points forts. Au niveau de l'univers qui est mis en place par la série, j'ai dit que Kevin Williamson s'était basé sur sa propre adolescence. Et ça, je trouve que ça se sent vraiment. Il y a un côté très, très authentique, très Amérique. Alors, pas profonde dans le sens peut-être plus sudiste auquel on peut penser quand on parle d'Amérique profonde, mais vraiment une Amérique proche des gens, proche de son territoire, enfin tu vois, quelque chose de très ancré dans le réel, et ça se ressent vraiment autant au niveau des personnages qui sont présentés, qui sont des personnages finalement très très simple, très simple dans leur manière d'être, dans leur manière de réagir, même dans leurs ambitions. On peut se dire ils ont des ambitions extravagantes. Il y en a un qui veut devenir réalisateur, l'autre qui veut devenir une grande artiste ou je ne sais quoi. Mais en même temps, ben oui, ce sont des ambitions de gens ordinaires qui ont juste envie de rêver, quoi. Et je trouve que ça se ressent assez fort, ce côté gens ordinaires qu'on représente pas tant que ça, finalement. On va souvent avoir tendance à nous représenter les extrêmes, les populations soit très très riches, soit au contraire très très pauvres, même si c'est beaucoup moins le cas ici. C'est juste des gens normaux, et la série porte justement ces valeurs-là aussi. Et donc quand tu dis mais ça a un côté assez, assez sage, on pourrait dire provincial, tu vois, au niveau de sa manière d'être, son manque d'extravagance, moi je trouve que c'est ce qui rend justement la série authentique et attachante aussi, quoi. Autre point fort de la série, mais elle est porteuse de pas mal de messages forts, mine de rien, parce que même si elle porte des valeurs assez traditionnelles, notamment sur le rapport au travail, sur le rapport à la communauté, au service des autres, etc., par contre, il y a certains points sur lesquels elle porte plutôt un message engagé. Alors, en premier lieu, sur la question de l'homosexualité, et il faut quand même noter que c'est une des premières séries à avoir présenté un personnage homosexuel qui fait son coming out, qui a son premier baiser homosexuel à l'écran, etc. Donc c'est quand même pas rien dans l'histoire de la représentation de l'homosexualité. Il y a un côté véritablement engagé et en même temps une vraie réflexion qui est menée grâce au personnage de Jack sur cette question-là, puisque on va passer par toutes les étapes, quoi. On va passer par le déni, on va passer par le coming out en tant que tel, surtout vis-à-vis de sa famille et les réactions de sa famille qui vont évoluer petit à petit. Le rapport à la religion, le rapport également à sa propre identité et sur le fait, par exemple, que c'est pas parce qu'il est homosexuel que tout à coup il veut se voir comme un représentant de la communauté gay, ou bien qu'il va arrêter d'être un sportif pour son lycée ou des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses sur cette question-là qui sont traitées et qui, notamment pour l'époque, c'était il y a 20 ans, étaient assez avant-gardistes et je crois le sont encore aujourd'hui, quoi. Autre message fort qui est porté, mais c'est... alors, ça va te paraître étonnant ici, mais je trouve que sur la question du sexe, la série porte plutôt un message qu'on pourrait trouver gnangnan, un petit peu à l'eau de rose, etc., traditionnel, tout ce qu'on veut, mais qui, à l'écran, n'est pas si fréquent que ça, n'est pas si souvent représenté. Le fait de montrer que finalement la sexualité, c'est pas si évident que ça à aborder quand on est adolescent et qu'on commence seulement à s'y frotter. Il y a un côté très éducatif dans l'accompagnement des adolescents sur cette question-là. Alors peut-être avec un côté un petit peu... comment on peut dire, névrosé à certains moments, mais de fait, certains peuvent le vivre sur le,
oui,
sur le sens de la névrose, enfin, dans le côté névrosé aussi. Hein.
Clairement, c'est un reflet d'une réalité. Hein.
Voilà.
Ça, j'en suis persuadé. C'est juste, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une déformation par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries télé qui... À l'inverse, là, est totalement exagéré. Donc,
oui, c'est
voilà.
Ça.
Il faut trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que par moment, ils se prennent la tête quand même. Hein.
Ah oui, oui, très clairement, ils se prennent la tête, c'est clair. Comme je l'ai dit, c'est le propos de la série. Hein. Très clairement, enfin, moi j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on peut dire, les sujets sont abordés, tu vois. C'est pas comme si on disait non, le sexe ça n'existe pas, on veut faire comme si ça n'existe pas. Les sujets sont abordés, mais simplement ils sont abordés dans toute leur complexité, et donc ça prend énormément de temps, et ça montre aussi que finalement c'est pas quelque chose de simple, et que même c'est pas parce que ça y est tu l'as fait que tout est réglé et les choses vont aller comme sur des roulettes à partir de ce moment-là, quoi. Ça montre à quel point tout ça intrigue le côté physique, le côté émotionnel, et que parfois ça peut mener à des ratés assez monumentaux. Donc, au niveau des biais idéologiques aussi, la série porte quand même un message assez fort. Alors, c'est par petites pointes, hein, c'est pas quelque chose, ils sortent pas leur grand drapeau, abat le patriarcat, abat la religion intolérante, etc. Mais régulièrement, et c'est souvent à travers d'ailleurs le personnage de Jen, on va avoir un regard un petit peu distancié vis-à-vis du jugement habituel qu'on peut avoir sur certains comportements, surtout des filles, en se disant « oui, mais enfin, si on pose ce jugement-là, c'est souvent parce que c'est un homme qui pose ce regard sur les femmes, et peut-être qu'il serait temps de changer un petit peu la manière de voir les choses ». Et donc, à ce niveau-là aussi, je trouve qu'il y a un vrai... un vrai message qui est transmis. Alors, je vais aller un peu plus vite puisqu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Les derniers points forts auxquels j'ai pensé, ce sont les acteurs. Je trouve que les acteurs, notamment, ont une bonne alchimie entre eux. Ça, c'est la première chose. Et individuellement, sont aussi assez bien choisis. La vérité des sentiments qui sont transmis à l'écran. Alors, j'ai expliqué un petit peu que c'était un mélange entre la narration, les dialogues, ces différents éléments que j'ai déjà cités. La justesse psychologique qu'on peut retrouver dans les comportements de certains personnages. Alors, malheureusement, et ça, ce sera plutôt à mettre dans les points faibles, surtout des personnages masculins, parce que les personnages féminins sont souvent moins bien servis que les autres. Même si, encore une fois, ça s'explique par... si on regarde la série en elle-même, la série elle se présente comme le regard de réalisateur, entre guillemets, de Dawson sur ses amis. Et donc, on pourrait aussi comprendre la faiblesse et le côté un peu cliché des personnages féminins par le fait que, finalement, ils sont regardés à travers le regard de Dawson, ce qui expliquerait en partie, hein, parce que malgré tout, il y a certaines choses qui sont moins excusables, et notamment le lissage, et puis parfois les hésitations qui sont pas très compréhensible de Joey dans certaines saisons, mais je trouve que si on réfléchit un petit peu à la manière dont la série est construite, ça s'explique relativement. Dernier point faible dont je voulais parler, eh bien c'est le fait que la série, à cause de son succès, a parfois peut-être un petit peu polisser son propos, lisser ses personnages, et ça c'est plutôt dommage. Et puis pour durer un peu plus longtemps, a peut-être suspendu certains sentiments en faisant comme si il y avait moyen d'hésiter pendant 10 ans entre machin et machin, alors que ça ne paraissait peut-être pas aussi crédible que ça. Voilà.
Voilà pour tous ces points positifs à propos de Dawson. Une petite pause musicale et on revient.
Oui, on va s'écouter Feels Like Home de Chantal Kreviazuk, entendu dans Dawson's Creek. Donc.
Something in your eyes makes me wanna lose myself, makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice that makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts of my life. If you knew how lonely my life has been, and how long I've been so alone, and if you knew how I was
de retour dans cette émission qui vous parle de Dawson à l'occasion des 20 ans de la série. Alors, on t'écoute religieusement.
Alors cette fois-ci, on va se poser la question de l'héritage et donc en quoi est-ce que c'est une série qui est encore importante 20 ans plus tard. Alors je vais essayer d'aller super vite. Première raison, je crois que c'est une des représentations les plus authentiques de l'adolescence à l'écran, tout simplement, que ce soit à la télévision ou au cinéma d'ailleurs. C'est une représentation de l'adolescence très juste sur ses questionnements, sur ses hésitations, sur la question de la nécessité d'agir et en même temps, est-ce qu'on se sent tout à fait prêt et l'angoisse que cette hésitation peut provoquer. Au niveau des sentiments aussi, il y a quelque chose d'assez juste qui transparaît et qui en fait encore aujourd'hui une des représentations importantes de l'adolescence. La deuxième raison, c'est que c'est une série qui permet un investissement émotionnel très fort de la part de ses téléspectateurs, des téléspectateurs qui seront, même malgré certaines saisons peut-être un peu plus faibles ou certains épisodes moins satisfaisants, auront envie de toute façon de suivre ces personnages qu'ils aiment profondément jusqu'à la fin. Et il faut souligner qu'elle offre une fin véritablement parfaite à ce niveau-là. C'est une série qui va apporter à la fois une vraie conclusion à son propos et à ce qu'elle a essayé de développer pendant ces 6 années, et en même temps va permettre à tout le monde de faire ses adieux, quoi, de manière qui rend hommage au côté un petit peu émotif de la série. Autre chose, c'est une série qui porte un message positif et bienveillant. C'est une série qui est 100% sans cynisme, et ça fait du bien aussi d'avoir des personnages comme ça. Évidemment, je l'ai déjà dit, c'est une série qui porte les débuts peut-être de la culture méta, donc ça aussi c'est intéressant à ce niveau-là. Elle rejoint d'ailleurs Buffy qui était sur le même mode vis-à-vis de la culture populaire notamment. Alors c'est une série qui est aussi très progressiste encore aujourd'hui pour beaucoup de questions, et principalement les questions liées au genre, liées à la sexualité et liées au rapport entre les sexes. Alors certains vont critiquer le fait que c'est peut-être un petit peu trop parfait, notamment on a eu dans la dernière saison de Unbreakable Kimmy Schmidt une sorte de critique où on disait oui, il y a une façon de présenter le sexe comme si c'était une récompense parce que Pacey s'est bien comporté, alors il va enfin y avoir droit. Je suis pas du tout d'accord avec cette vision là. Pour moi, cette manière de dire c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu as fait cela, etc., c'est pas dire le sexe c'est une récompense, c'est au contraire dire tous ces petits gestes montrent à quel point je peux te faire confiance, et donc maintenant que je suis pleinement en confiance, je peux sauter dans le vide. Et ça rejoint totalement l'idée que j'ai expliquée précédemment, que la série finalement elle ne fait que ça, elle ne fait que nous montrer un petit peu les hésitations entre qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est l'idéal ou bien est-ce que c'est l'action, et comment est-ce qu'on passe à l'action. Et là c'est vraiment dans les moments importants, elle embrasse pleinement son propos à ce niveau-là. Enfin, je terminerai en disant qu'il y a beaucoup de préjugés sur la série. Alors on nous dit qu'elle est trop gnangnan, moi je dirais simplement qu'elle est anti-cynique.
On te dit ça ?
Oui, on me le dit parfois. On dit qu'elle est casse-tête, et moi je dis oui, et puis parfois moi j'aime bien ça, donc j'aime qu'il y ait des séries casse-tête. On peut penser que c'est une série qui est puritaine, et moi je dirais au contraire que c'est une série qui est souvent beaucoup plus en avance qu'on pourrait le croire dans sa manière de représenter présenter justement les hommes, les femmes et leur rapport entre eux. On dit que c'est une série peut-être un peu trop idéaliste, romantique, et pourtant c'est une série aussi qui casse énormément les mythes romantiques, et notamment à travers les balles de promo qu'elle va casser à chaque fois de manière absolument tragique. Et puis enfin, c'est une série un peu trop sérieuse, éducative, pépère, avec des valeurs ringardes, etc. Je dirais que oui, et qu'elle l'assume assez bien, mais c'est aussi une série qui est tolérante, qui est ouverte, qui est compréhensive et qui permet de peut-être mieux se comprendre soi-même. Voilà.
Voilà, donc il y avait des mauvais côtés, mais que tu as démonté un par un.
Voilà, exactement.
Ok. Gnangnang, moi c'est le titre, le terme que je vais garder.
Et moi j'ai dit anti-cynique.
Et puis casse la tête. Bon, là-dessus, bah, merci pour ton partage d'une de tes séries préférées, hein, si pas la préférée.
Une de ces.
Il y a Buffy aussi, on sait.
Oh, y a pas
et notamment, et puis Fargo, et puis. Bon. Bref. Merci pour ce moment partagé. On se quitte en musique si tu le veux bien.
Oui, encore une fois, on va aller piller la BO de Dawson en allant s'écouter To Be Loved de Curtis Stingers.
Merci à toi, on se retrouve très bientôt. Cette émission sera évidemment disponible en podcast tout prochainement sur le site internet notamment www.seriefolie.be. À très bientôt.
À très bientôt, oui.
Good boy, just behave, what's wrong with you? Settle down, keep your 2 feet on the ground. Sit up straight, stand up tall. Never falter, never fall. Stay in school, make the grade. Never fail and never fade. Be a hero, be a star. Anything but what you are. Find the girl to possess. Always pay, pursue, protect. Be the master, be a slave. Work your ass into an early grave. Dress up in your mama's pearls. Serve his breakfast in his bed. Earn a little kiss on the forehead. You are sugar, you are spice. You are growing up so nice. Paint your nails, paint your face. Paint around the empty space. Find a man who can provide. Try to fill the hole inside. With a family and a home. Tell yourself you're not alone. Your memories of yourself in a shoebox on the closet shelf.